Alors, il y a un chant que nous avons entonné tout à l'heure et qui annonçait très bien le thème du message d'aujourd'hui. Dans l'un des chants, nous avons parlé du jugement. Et en effet, c'est le dernier des messages à thème sur les fondamentaux de la foi, le jugement éternel. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Un jour, l'abbé d'une paroisse célébrait un office et il était en train de lire plusieurs passages sur le retour du Seigneur et dans le jugement qui allait suivre. Et il expliquait à son assemblée que cela pouvait survenir tout à l'heure, entre guillemets, comme nous l'a si bien dit Jean-Daniel. Cet homme a à peine terminé son explication, son cœur s'est arrêté de battre et il s'est effondré devant son assemblée. Et pour lui, le tout à l'heure s'était devenu concret. Or, tout cela pour rappeler ce que Jean-Daniel nous a déjà dit, que seul le présent nous appartient. Et ensuite, nous avait rappelé aussi que tous les morts, sans exception, ressusciteront pour aller dans deux directions différentes. Dans le thème de ce message, c'est le jugement éternel. Et un petit cadre à poser, il y a une chose dont nous ne parlerons pas ici, dans ce message. Nous ne parlerons pas des signes du retour de Christ. Tout simplement parce que l'Église du 1er siècle n'attendait pas les signes, elle attendait le retour du Christ, tout simplement. Or, c'est aussi un encouragement pour nous à suivre l'exemple de l'Église primitive, attendre le retour du Seigneur. Or, je laisse la place à Monique qui va nous lire le texte proposé pour aujourd'hui, la parabole du jugement dernier ou parabole des brebis et des boucs, Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 46. Je pense que ça va s'afficher, voilà.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors. Seigneur, quand avons-nous vu affamés? Quand avons-nous donné à manger? Ou assoiffés et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueillis chez nous? Ou nus? Et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Ils lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle.
Bien, merci Monique. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Donc, je vous propose quatre balises pour nous repérer. D'abord, le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, mais qu'en attendons-nous précisément ? Ensuite, nous verrons la notion de la séparation définitive. Le sort des justes et le sort des condamnés. Voilà ce que nous allons aborder ce matin. Alors, le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, Dieu s'est réservé un jour pour le jugement. Nous ne savons pas quand. Seul Dieu le Père connaît la date et l'heure. Or, ce jour, c'est l'attente de tout un peuple. Et la parabole que Monique vient de nous lire s'inscrit dans ce contexte de l'attente de ce jour par les disciples, puisque les disciples avaient posé la question à Jésus, « Quand sera ton retour ?» Et les lecteurs de la deuxième lettre de Pierre attendaient ce jour avec impatience, et une impatience telle aussi que l'apôtre est obligé de leur rappeler que, aux yeux de Dieu, la mesure du temps est totalement différente de la nôtre, puisqu'il leur rappelle un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ou un autre exemple, les Thessaloniciens croyaient que le Seigneur était déjà revenu. Et l'apôtre Paul est obligé de les rappeler à leur bon sens. Il les invite à exercer leur bon sens en leur rappelant que ce jour du retour sera précédé par la venue de l'adversaire qui lui-même se prendra lui-même pour Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, le peuple israélite vivait aussi dans l'attente de ce jour. Dans Jérémie, par exemple, il y en est question. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Un passage qui nous fait bien voir deux directions différentes, d'abord la libération pour le peuple de Dieu qui souffrait de cette oppression et la condamnation à mort pour les ennemis du peuple de Dieu. Un autre prophète qui en parle aussi, c'est Amos. Amos qui nous dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Mais qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. » Et un autre prophète en parle aussi, Joël. Et le message adressé par Joël a été repris par l'apôtre Pierre dans son discours sur la Pentecôte. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Alors nous-mêmes ici présents, nous sommes interpellés, qu'attendons-nous de ce jour ? En effet, la parole de Dieu nous place devant nos responsabilités. Attendons-nous la lumière qui brille pour l'éternité ou attendons-nous les ténèbres ? En tout cas, deux certitudes se dégagent de ce texte que nous avons écouté, celui que Monique nous a lu. Bien, c'est Jésus, le Messie ou Christ, qui siégera sur le trône du jugement. Bien, ce sera lui et personne d'autre. Ensuite, chacun le verra lorsqu'il comparaîtra devant lui. Et ce que l'Apocalypse nous confirme, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et il y a deux camps qui vont se séparer définitivement. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Lorsque Jésus viendra siéger sur ce trône, ce sera trop tard, ce qui veut dire que la porte de la grâce sera définitivement fermée. Alors nous en parlons, il y aura en effet deux directions opposées qui vont se séparer. Ce sera par exemple comme une voiture qui descend du champ du feu vers la vallée de la Bruche. La voiture traverse Foudé, puis passe le pont sur la rivière. Et après le pont, la route se termine au carrefour avec l'ancienne nationale par un stop. Eh bien, le conducteur de la voiture, au stop, ne peut absolument pas aller tout droit. Il est obligé soit de tourner à droite vers Strasbourg ou tourner à gauche vers Saint-Dié. En face, il y a la montagne. Et là, au jugement final, ce sera exactement comme à ce carrefour. À un petit détail près, c'est que il y aura Jésus et ses anges pour régler la circulation au carrefour. Jésus abordera chaque conducteur et en fonction de ce qu'a été servi, il lui dira « Toi, tu vas à droite » ou bien « Toi, tu vas à gauche ». Et le jugement sera sans appel. Et nous apprenons d'une autre parabole qui est dans Luc, celle-là, la parabole du riche et de Lazare. Nous apprenons qu'il y a un abîme, un espace infranchissable entre ces deux directions. Nous observons que le riche et Abraham se parlent, et pendant que Lazare est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire l'image d'un bonheur éternel, le riche qui souffre s'entend dire qu'il y a un abîme infranchissable, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible d'aller d'un endroit à l'autre et inversement. Alors, il n'y aura ni pont d'Aquitaine, il n'y aura ni tunnel sous la Manche, encore moins des bacs pour traverser l'estuaire ou des fusées Ariane pour aller d'une planète à une autre. Ce qui veut dire que toutes les tentatives humaines pour aller d'un endroit à l'autre seront vouées à l'échec. Donc, à ce stade-là, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à ne pas nous laisser ébranler. Parce que j'ai bien conscience que ces paroles peuvent choquer. Un jour, j'ai reçu une réaction très vive d'un lecteur de feuillet de calendrier suite à un feuillet que j'avais écrit. Et cet homme écrivait « Dieu ne se plaît pas à la souffrance, même dans le jugement des méchants ». Là-dessus, c'est vrai, Dieu ne se plaît pas à la souffrance. Cela dit, nous en avons déjà parlé, par exemple, dans le cadre du dernier message « La tragédie de Judas », et c'est un peu ce que je lui avais répondu aussi. Dieu a créé l'être humain non comme un robot, mais dans son immense amour, il l'a créé libre et responsable de ses actes. Ce qui veut dire que Dieu a pris le risque d'être aimé par sa créature, mais il a pris aussi le risque d'être rejeté. Dieu a laissé sa créature libre et responsable de ses actes, c'est-à-dire libre et responsable d'assumer les conséquences de son choix. Or, c'est certain, le désir de Dieu est que tous soient sauvés. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais c'est à chacun d'entre nous à franchir la porte du salut tant qu'elle est ouverte. Nous avons dit, il y a quelques minutes, qu'un jour, cette porte se refermera. Et qu'est-ce qui nous empêche d'entendre ces paroles ? L'un des problèmes de notre société, chers frères et sœurs, c'est que nous entendons parler, et peut-être nous-mêmes, parfois, parlons en utilisant des euphémismes. Un euphémisme est l'expression atténuée d'une situation, d'une notion qui pourrait blesser ou choquer. Par exemple, un euphémisme pour désigner le cimetière, c'est le lieu de repos. Ou un autre euphémisme bien connu, les tarifs ont été actualisés. Ça veut dire qu'ils ont été augmentés. Oui, ça fait-il, tiens, tiens. Eh bien, au contraire, chers frères et sœurs, la parole de Dieu ne parle pas par euphémisme. Pour employer une expression courante en bon français, Dieu appelle un chat, quitte parfois à nous choquer, mais c'est pour nous alerter. Or, cela nous conduit à parler du sort des justes, mais les justes reçoivent un cadeau. Les justes reçoivent, comme cela a été dit, le royaume de Dieu préparé depuis la création du monde, ce qui veut dire qu'ils sont en présence de Dieu pour l'éternité. Or, nous avons plusieurs images, par exemple, comme Lazare dans le sein d'Abraham, ce qui voulait dire à l'époque, c'était l'image d'un bonheur éternel. Ils sont appelés à briller comme des étoiles. Jean Daniel nous l'avait rappelé il y a quelque temps. Nous apprenons que Paul, au terme de son parcours, reçoit la lumière de justice avec plusieurs frères et sœurs comme lui. ils entrent par les portes de la ville sainte. Et cela m'a rappelé un autre chant, un vieux chant des ailes de la foi, voir mon Sauveur face à face. Alors pour nous encourager, je vais vous proposer d'entonner le premier couplet et le refrain. Alors s'il y a quelques personnes qui veulent entonner avec moi pour guider toute l'assemblée, nous allons chanter ce petit refrain, ça vous dit ? Eh bien, allons-y. Mon Sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers rois. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Eh bien, voilà pour nous encourager, merci. Et cela nous invite à nous poser la question, mais comment sont-ils devenus justes ? La parabole lue au début nous enseigne qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, accomplir la volonté de Dieu ? Comme on dit en occitan, « qu'est-ce à quoi ?» Jésus nous explique de quoi il s'agit, c'est dans l'Évangile selon Jean. Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qu'il a envoyé. Ou un peu plus loin dans ce même chapitre, voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je les relèverai de la mort. Nous apprenons aussi que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce livre n'est pas écrit par une main humaine. Ce livre est écrit par la main de Jésus lui-même. Ce qui veut dire concrètement qu'aucun virus ne peut effacer les noms de ceux qui figurent dans ce livre. Il n'y a aucun danger à ce sujet. Et nous allons parler de quelque chose qui est beaucoup plus triste pour ceux qui sont concernés. Je souhaite que ce ne soit le cas de personne dans cette salle ici, ni personne parmi ceux qui écoutent ce message par Internet, s'il y en a, le sort des condamnés. La Bible emploie un langage cru, nous l'avons dit. La parole de Dieu appelle un chat, et plusieurs images évoquent une souffrance indescriptible avec des mots humains, parce que la réalité dépassera tout ce que, avec nos mots humains, nous pouvons dire. Paul écrit aux Thessaloniciens, par exemple, « Voilà la punition pour ces gens-là, ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur, et de sa puissance glorieuse. » Alors, autant les justes sont en présence du Seigneur pour l'éternité, autant les condamnés seront loin de lui pour l'éternité aussi. Or, il y a trois images que les auditeurs du premier siècle pouvaient comprendre. Je vous propose, parmi les nombreuses images, de voir ces trois-là, parce qu'elles font référence à des choses connues dans l'Ancien Testament aussi. Le lac de soufre enflammé, ou dans d'autres versions, l'étang de feu et de soufre, c'est une allusion à la pluie de feu et de soufre qui s'est abattue sur Sodome et Gomorre et qui a condamné ces deux villes à un jugement éternel. Une autre image, c'est la géhenne. Et Jésus précise, là où le feu ne s'éteint pas et où leur ver ne meurt pas. Or, le mot Géhenne, alors ça vient de l'hébreu Gehinnom, la vallée d'Hinnom, qui était à la périphérie de Jérusalem, et c'était un dépôt d'ordures. Alors, nous n'avons plus trop l'habitude de voir des dépôts d'ordures à ciel ouvert aujourd'hui. Quand j'étais à l'âge de l'enfance, peut-être un peu à l'adolescence, il y avait un dépôt d'ordures à la périphérie du village de mes grands-parents, où ils habitaient, et j'avais la recommandation de ne pas trop m'en approcher. Mais chaque fois que je passais pas très loin de cet endroit, il y avait toujours une fumée qui s'élevait. Que ce soit été ou hiver, qu'il fasse soleil comme aujourd'hui, ou qu'il pleuve, je voyais toujours de la fumée s'élever. Donc il y avait toujours quelque chose qui se consumait. Et au dire des anciens du village, et au dire notamment de mon grand-père, ça grouillait de vermine. Inutile de vous dire, j'ai fait confiance aux personnes du village, je ne suis pas allé vérifier moi-même. Vous vous en doutez. Donc là où le feu ne s'éteint pas et où leur ver ne meurt pas, bien, Jésus cite ici le prophète Ésaïe, ce qui veut dire que ces personnes seront rongées pour l'éternité par quelque chose. Une autre image d'une souffrance. Ésaïe dit cela à propos du sort final des méchants, en conclusion de son livre. Alors, à propos des méchants, le méchant dans une Bible allemande, c'est « der Gottlose ». Littéralement, le sans-Dieu, c'est-à-dire celui qui n'a pas Dieu avec lui, celui qui a refusé de faire confiance à Dieu pour diriger sa vie. Voilà ce qu'est le méchant. Une troisième image, en termes quelque peu fleuris aussi, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, il est question de pleurs et de grincements de dents dans les psaumes. Et dans les psaumes, cette expression concerne le méchant opposé au juste. C'est l'image d'une rage absolument incontrôlable, une douleur absolument incontrôlable aussi. Parce que soit nous observons que le méchant grince des dents parce qu'il prépare un mauvais coup contre le juste, parce que sa rage le pousse à le faire, ou bien le méchant grince des dents et se consume, ça, par exemple au psaume 112, verset 10, parce qu'il voit le bonheur du juste. Donc cette expression désigne une rage, une douleur extrême. Le méchant est consumé par le feu de la jalousie. Nous voyons par exemple le riche de la parabole qui voit Lazare dans le sein d'Abraham dans une souffrance qui est indescriptible avec des mots humains. Et là, pour conclure, je souhaite m'effacer et laisser parler Jésus, notre Maître, pour la conclusion. Ce qu'il dit sera la conclusion de ce message. C'est dans l'Apocalypse. Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors, ceux qui vivent n'importe comment, qu'il reste dehors les sorciers, les gens immoraux, qu'il reste dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Une application pratique pour nous, j'ai envoyé mon ange pour affirmer à la bonne nouvelle Lingolsheim-Ostwald, tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David, je suis l'étoile brillante du matin. Et l'apôtre Jean conclut l'Apocalypse par ces mots, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.